Je vous invite donc à suivre avec moi le texte de Matthieu 27, les versets 45 à 53. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et dirent, « Il appelle Eli ». Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Il la fixa sur prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Il la fixa sur un roseau et lui donna à boire. Mais les autres dirent, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux de haut en bas. Et la terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent. Et le corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et ils apparurent au plus grand nombre de personnes. Dieu bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs. Amen.
Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers visiteurs. Nous sommes heureux bien sûr de nous retrouver ici dans ce temple, semaine après semaine. Le texte qui vient d'être lu va nous permettre de développer un petit détail qui a son importance. Il est dit dans Jean chapitre 19 et verset 30, « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. « Tout est accompli. » Ce furent les dernières paroles de Jésus avant sa mort. Ainsi s'achevait la mission de rédemption dont il s'était chargé, envoyé par son Père et revêtu de notre humanité pendant 33 ans. C'est à l'âge de 12 ans que Jésus avait pris conscience de sa nature, alors qu'avec ses parents, il s'était rendu, probablement pour la première fois, à Jérusalem pour la fête de Pâques. Nous lisons dans chapitre 2 de l'Évangile selon saint Luc, verset 46, au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les questionnant. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Et voici que 20 ans ont passé, et en ce vendredi après-midi, veille de sabbat d'une dernière Pâque, le ministère terrestre de Jésus prenait fin, alors que sur une croix, entouré de deux malfaiteurs, il agonisait, abandonné de tous. Et voici, nous dit le texte, Luc 23, verset 45, « Voici que le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. » Et Luc précise qu'il se déchira par le milieu. Nous avons lu dans notre texte d'introduction, que Éric nous a lu, que lorsque Jésus expira et que le voile du temple se déchira, plusieurs événements surnaturels se produisirent. Le soleil s'obscurcit. La terre trembla. Les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et plusieurs saints ressuscitèrent. Pourquoi ces événements? Que signifient-ils? Et surtout, pourquoi le voile du temple s'est-il déchiré à ce moment précis? Quelle était la raison d'être de ce voile dans le temple? Et pour répondre à cette question, eh bien, il nous faudra remonter pendant quelques instants au début de l'histoire de notre monde. Depuis leur création à l'image de Dieu, Nos premiers parents vivaient en constante harmonie avec leur Créateur. Et nous savons que l'Éternel Dieu venait à leur rencontre chaque jour lorsqu'ils parcouraient le jardin avec la brise du soir. C'est dans la Genèse chapitre 3, verset 8. Voici quelques lignes que j'ai trouvées dans notre commentaire adventiste, volume 1. Les visites périodiques de Dieu vers la fin du jour, lorsque les doux zéphyrs du soir rafraîchissaient le jardin, ont toujours été des occasions de bonheur pour l'heureux couple. Malheureusement, ce bonheur prit bientôt fin, car l'auteur du mal ne tarda pas à s'approcher. Dans ce récit biblique, il nous est tout d'abord mentionné un serpent, une créature de Dieu, décrite comme étant le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Un animal apparemment inoffensif, qui leur était sans doute familier et qui leur parlait. Dieu avait donné ce commandement à l'homme : tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ève en avait aussi connaissance, car lorsque le tentateur s'adressa à elle par l'intermédiaire du serpent, elle répondit sans hésitation à elle par l'intermédiaire du serpent. Elle répondit sans hésitation : mais nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. Nous connaissons la suite, pas mourir. Nous connaissons la suite de ce récit. Nous connaissons la suite de ce récit. Tout allait bientôt tragiquement changer pour ce premier couple et, bien sûr, pour toute l'humanité. Conscients de leur faute, Adam et Ève, qui avaient l'habitude de rencontrer l'Éternel Dieu, vous est-il dit, avec la brise du soir, eh bien, ils allèrent se cacher parmi les arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme : où es-tu ? Il répondit : j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis donc caché. À cet instant, le récit biblique indique déjà le changement qui venait de s'opérer chez nos parents. Car lorsque Dieu demanda à Adam : as-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? Il rendit Dieu responsable. Mais la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et Dieu s'adressa à la femme : mais pourquoi as-tu fait cela ? Eh bien, c'est le serpent qui m'a induite en erreur et j'en ai mangé. Évidemment, Dieu n'interrogea pas le serpent, car il savait qu'il n'était qu'un médium utilisé par l'auteur du mal. Mais une sentence fut prononcée contre lui : tu seras maudit entre tous les animaux de la campagne, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Puis ce fut cette sentence prophétique destinée à Satan, appelé aussi le serpent ancien : je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Ce sont des textes que nous connaissons bien. Quelques lignes encore du commentaire biblique adventiste, volume 1er. Ce jugement exprimé en langage prophétique a toujours été compris par le christianisme comme la prédiction de la venue du libérateur. Ensuite, la sentence s'adressa au premier couple et à sa descendance. La femme enfantera dans la douleur. Le sol sera maudit à cause de l'homme. C'est avec peine qu'il en tirera sa nourriture tous les jours de sa vie. Et Dieu précisa encore : c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Et l'Éternel Dieu confectionna des habits de peau de bête dont il les revêtit. Alors l'homme et la femme furent chassés du jardin d'Éden pour qu'ils n'aient plus accès à l'arbre de vie. Et le texte nous dit, Genèse 3, verset 24, que l'Éternel posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et depuis ce jour, l'homme et la femme, exclus du jardin, n'eurent plus la possibilité de rencontrer Dieu face à face, du moins, car un mur de séparation existe désormais entre la divinité et l'humanité, un mur de séparation entre le saint et le profane, selon l'expression du prophète Ézéchiel, chapitre 42 et verset 20. Mais Dieu, qui avait revêtu nos premiers parents d'habits de peau, en prenant, naturellement, la vie d'un animal innocent, n'abandonna pas l'humanité à son triste sort. Un autre texte que j'ai trouvé dans le livre, non, plutôt dans le commentaire, mais un texte d'Ellen White qui dit ceci. Dès l'instant où l'homme accepta les tentations de Satan, et qu'il fit ce que l'homme accepta les tentations de Satan, et qu'il fit ce que Dieu avait dit de ne pas faire, Christ, le Fils de Dieu, se plaça entre la vie et la mort, disant « Que la sentence tombe sur moi, je me tiendrai en tête de l'homme et il aura une nouvelle chance. » Un peu plus loin, elle ajoute ceci « Quelle étonnante preuve d'amour ! Le roi de gloire proposa de s'humilier lui-même pour l'humanité déchue. Il placera ses pieds sur les pas d'Adam. Il prendra la nature déchue de l'homme et affrontera l'ennemi puissant qui a triomphé d'Adam. Il vaincra Satan et ouvrira ainsi pour tous ceux qui croiront en lui le chemin de la rédemption du péché d'Adam. » Cependant, bien que l'homme et la femme aient été chassés de la présence de Dieu, Dieu demeura attentif au sort de l'humanité. Et sa première intervention, mentionnée dans le texte biblique, se produisit, nous la connaissons bien sûr, lorsque Caïn et Abel apportèrent à l'Éternel une offrande du fruit de leur labeur. Et, bien entendu, malheureusement, lorsque Caïn tua son frère Abel. Après cet horrible meurtre, l'Éternel appela Caïn. « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Et au cours des siècles, Dieu ne cessa d'appeler les hommes, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour employer un texte du livre de Job. L'homme avait été chassé du paradis, mais la liaison entre le ciel et la terre n'était pas rompue. Et une belle image de ceci nous est donnée par le récit du rêve de Jacob. Nous trouvons ce texte dans Genèse, chapitre 28 et verset 12. Alors qu'il s'enfuyait loin de son frère, qui en voulait à sa vie, il eut un rêve. Et voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or, l'Éternel se trouvait au-dessus d'elle. L'autre extrait de notre commentaire nous dit ceci. L'échelle était un symbole d'une réelle et ininterrompue communion entre Dieu dans les cieux et son peuple sur la terre. Les anges montent pour présenter les besoins des hommes devant Dieu et descendent avec les promesses de l'assistance divine et de sa protection. Un peu plus loin, dans le même commentaire, d'un côté se trouve l'homme qui a perdu toute connexion avec Dieu, et au sommet de l'échelle, le Dieu des cieux qui le voit et consent à ce que le Christ, le Dieu des cieux qui le voit, et consente à ce que le Christ vienne jeter un pont sur l'abîme créé par le péché. Plus tard, lorsque Dieu eut libéré son peuple de l'esclavage, il désira venir habiter chez lui. Exode 25, verset 8, « Ils me feront un sanctuaire, et je demeurerai au milieu d'eux. » Et pour cela, il donna à Moïse des instructions très précises, très détaillées. Verset 9, il est dit « Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous les ustensiles que je te montrerai. Un sanctuaire fait de main d'homme, mais en imitation du véritable établi par le Seigneur dans le ciel. » C'est l'Épître aux Hébreux qui nous dit ceci. Et nous découvrons que cette maison était constituée de deux parties inégales, l'une appelée « lieu saint », l'autre, de moitié moins grande, lieu très saint. Ces deux parties devaient être séparées par un voile. Un voile, nous dit le texte, un voile de pourpre violette et rouge et de fin lin retorse, mais avec des chérubins qui seront brodés avec art. Et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Exode chapitre 26, verset 31 nous dit ceci, « Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le saint des saints. » Toujours dans le livre de l'Exode, chapitre 25, Dieu avait précisé ceci, « Dans le coffre, tu mettras les tablettes de l'alliance que je te donnerai. Puis, tu mettras le couvercle sur le coffre. C'est là que je te rencontrerai. » Je parlerai avec toi d'au-dessus de l'expiatoire, entre les deux chérubins placés sur le coffre du témoignage, afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites. Et lorsque le tabernacle fut érigé, l'Éternel en prit possession. La Shekinah, symbole de la présence divine, le remplit. Et la nuée reposa sur lui jour et nuit. Moïse entendait la voix du Seigneur s'adressant à lui du haut du propitiatoire. Environ 400 ans plus tard, le roi David désira construire un temple à Jérusalem. Comme pour le sanctuaire, Dieu lui donna toutes les instructions relatives à sa construction. Donc David rassembla tous les matériaux nécessaires, mais Dieu désigna son fils Salomon pour le réaliser. Et si les dimensions de ce temple étaient doubles de celles du tabernacle de Moïse, le principe était identique. Une cloison de cèdre recouverte d'or, ainsi qu'un voile analogue à celui du tabernacle, séparait le lieu saint du lieu très saint, dans lequel était placée l'arche du témoignage, couverte d'or, surmontée de deux chérubins d'or. Le texte nous précise aussi que lors de la dédicace du temple de Salomon, la Shekinah, donc cette gloire du Seigneur, remplit l'édifice comme elle l'avait fait pour le tabernacle du désert. Ce magnifique temple subsista environ 400 ans. Puis il fut détruit, ainsi que la ville de Jérusalem, par l'armée babylonienne en 586 avant Jésus-Christ. Et la population fut déportée. Alors, la Shekinah, donc manifestation de la présence divine, se retira et ne se manifesta plus dans les autres temples. Quelques lignes tirées de Jésus-Christ, du livre Jésus-Christ d'Ellen White à la page 834, nous dit ceci. La sainte Shekinah, avant de s'éloigner du premier temple, s'était arrêtée sur la montagne orientale, comme si elle hésitait à abandonner la cité élue. Et la plupart des ustensiles de métal furent transportés à Babylone. Mais l'arche du témoignage, ainsi que les chérubins d'or ne furent pas pris, car selon la tradition juive, ils auraient été cachés dans une caverne avant l'arrivée des envahisseurs et ne furent jamais retrouvés par la suite. Après 70 ans d'exil à Babylone, le peuple fut libéré et un nouveau temple fut construit par Zorobabel avec l'aide de toute la nation. Et ce temple subsista, lui aussi, encore environ 500 ans, jusqu'à la conquête de Jérusalem par Hérode le Grand, en 37 avant Jésus-Christ. Il avait beaucoup souffert au cours des siècles, de sorte que Hérode décida de le reconstruire au même endroit, mais avec plus de splendeur et de beauté que toute autre structure, au même endroit, mais avec plus de splendeur et de beauté que toute autre structure de la région. Et bien qu'il se soit retiré du premier temple, Dieu n'avait cessé d'interpeller ses serviteurs, les prophètes, de diverses manières au cours des âges. Par exemple, Ésaïe 59, verset 2, nous dit ceci. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons verset chapitre 1er, verset 1er, « Mais, il y a un mais là-dedans, ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Et c'est dans ce dernier temple en cours de construction du temps d'Hérode que Jésus, enfant, fut présenté au Seigneur. Dans ses murs, il rencontra les docteurs de la loi à l'âge de 12 ans. Et dans ses cours extérieures, il chassa les vendeurs et les changeurs. Et l'édifice, comme les précédents, contenait un lieu saint, un lieu très saint. Un voile les séparait, bien que le lieu très saint soit resté vide. Et lorsque Christ expira, c'est ce voile qui se déchira. Voici encore quelques lignes de l'ouvrage Jésus-Christ, à la page 761. L'effroi et le désordre règnent partout. Le couteau s'échappe de la main inerte du prêtre, qui est sur le point d'immoler la victime, et l'agneau s'enfuit. Le symbole a trouvé sa réalité dans la mort du Fils de Dieu. Le grand sacrifice est consommé. La voie qui donne accès au lieu très saint est ouverte. Un chemin nouveau est vivant, vivant. Et préparé pour tous. Tous les sacrifices et toutes les offrandes pour le péché ont pris fin. Le Fils de Dieu est venu conformément à sa parole. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire avec son propre sang. Nous avons vu que d'autres phénomènes surnaturels s'étaient produits au même instant, que les tombeaux s'ouvrirent et plusieurs saints ressuscitèrent. Lors de son ministère, Jésus avait plusieurs fois annoncé sa mort par crucifixion, mais il avait toujours associé sa mort à sa résurrection le troisième jour. Plusieurs textes nous en parlent, nous le rappellent, tels que celui-ci, par exemple, Luc chapitre 24 et verset 7. « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et si la mort du Christ était inévitable du fait de la nature humaine qu'il avait endossée, sa résurrection était une certitude du fait de sa nature divine. C'est ce que Jésus affirma à l'un des brigands crucifiés avec lui lorsqu'il lui promit qu'il serait avec lui dans le paradis. Pour ce mourant, bientôt hors du temps par la mort, c'est aujourd'hui que Jésus a prononcé, et bien qu'étant intemporel, il lui affirma la certitude de la résurrection. Au cours de son ministère, Jésus a démontré plusieurs fois qu'il avait le pouvoir de vaincre la mort en ramenant plusieurs d'entre eux à la vie. Par exemple, son ami Lazare, la fille de Jaïrus, le fils de la veuve de Naïn et peut-être d'autres encore. Mais il l'a aussi démontré par ses nombreux miracles. Il a confirmé ce pouvoir pour lui-même. Jean chapitre 10, verset 17. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Plusieurs textes affirment cette de mon Père. Plusieurs textes affirment cette domination de Jésus sur la mort, mais un seul d'entre eux suffirait. Jean 11, 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même, il serait mort. Ainsi, dès que Jésus rendit l'esprit, c'est ce pouvoir de résurrection qui éclata brusquement, libérant plusieurs saints du tombeau, tandis que la terre tremblait. Libérant plusieurs saints du tombeau, tandis que la terre tremblait, que les rochers se fendaient, et que le voile du temple était déchiré en deux, du haut en bas, par une main invisible. Un extrait encore du livre « Patriarches et prophètes », page 64, nous dit ceci. « Lorsque Jésus-Christ, à l'agonie, expirant sur la croix, cria « Tout est accompli », un cri de triomphe retentit à travers tous les mondes et à travers le ciel même. La mort était déjà engloutie dans la victoire, comme le dit l'apôtre Paul. La mort était déjà engloutie dans la victoire, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, par la présence, par la puissance de la résurrection. Et alors que le voile du temple se déchirait, tel un contrat qui est arrivé à son terme et que l'on déchire, que les tombeaux s'ouvraient, c'est l'alliance nouvelle annoncée par Jésus qui était inaugurée pour l'humanité. Ainsi s'accomplissait le plan prévu par Dieu avant la fondation du monde pour le rachat de l'humanité par le don d'amour de son Fils bien-aimé, comme l'exprime l'apôtre Pierre dans son épître au chapitre 1er. L'incarnation de Jésus et son ministère sur notre terre ont consisté à briser ce mur qui nous séparait de Dieu depuis la chute en Éden. Éphésiens chapitre 2, verset 13 nous dit ceci. « Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix. Lui qui des deux, il s'agit des païens et des juifs, n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, c'est-à-dire l'inimitié. Le déchirement du voile du temple mit fin à l'alliance ancienne et remplaça le mur originel de séparation par une alliance nouvelle qui nous ouvre par Jésus au-delà du voile déchiré, comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Hébreux, si elle lui est attribuée, une libre entrée dans le sanctuaire. Voici maintenant quelques extraits du livre de Georges Stevny, qui a pour titre « Jésus, l'envoyé de Dieu ». Voici ce qu'il dit. « Le voile en question était celui qui séparait le lieu saint du lieu très saint dans le temple. » Ça, nous l'avons vu, bien sûr. L'accès au lieu très saint était strictement interdit, sauf au souverain sacrificateur qui devait s'y rendre une fois par an lors du Yom Kippour. Déchiré de haut en bas, ce voile est bien déchiré par Dieu, qui proclame ainsi universellement que nous avons, grâce à Jésus, une libre entrée auprès de lui. Nous avons, grâce à Jésus, une libre entrée auprès de lui. La réconciliation avec Dieu est désormais possible. En prenant la nature de fils de l'homme et subissant son sort sans succomber au péché, Jésus, ressuscité, vainqueur de la mort, a été jugé digne d'être le représentant de l'humanité auprès de Dieu et notre défenseur pour l'humanité, comme l'exprime l'Épître aux Hébreux, chapitre 7 et verset 25. Et toujours dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6 et verset 19, voici un texte qui est important. Car il nous dit « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Voici encore quelques lignes que j'ai trouvées dans l'ouvrage de Georges Stévenie. Toujours le même ouvrage, Jésus l'envoyé de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux insiste sur le fait que Jésus est venu pour secourir les hommes. Pour cela, il a dû être venu pour secourir les hommes. Pour cela, il a dû être rendu semblable aux hommes, élevé à la dignité de frère. Ce n'est pas une simple convenance, ni une contrainte. Le verbe employé ici indique une obligation morale. Sa mission est de vaincre le péché dans la condition même où se trouvent les hommes, afin de restaurer la relation filiale des hommes avec leur Père céleste. Fin de citation. Et un peu plus loin, il ajoute « Jésus n'est pas venu parmi nous pour souffrir et mourir. Il est venu pour nous mettre en condition de vivre en harmonie avec la volonté de Dieu dans son royaume. Mais, dans ce plan du salut, il a dû intégrer la souffrance et la mort. » Et c'est ce qu'a fait Jésus de Nazareth, que Dieu avait oint du Saint-Esprit et de force, lorsqu'il allait de lieu en lieu, nous dit le texte, Actes chapitre 10 et verset 38, lorsqu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dès sa résurrection, Jésus est monté vers son Père pour rendre compte de sa mission terrestre et obtenir la certitude que son sacrifice était accepté. C'est pourquoi, lorsque Marie-Madeleine s'approcha de lui au matin de la résurrection, que lui dit-il ? Jean, chapitre 20, verset 17. « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et quelques lignes de Ellen White dans l'ouvrage Jésus-Christ nous en parlent. Elle dit « Il s'éleva jusqu'au parvis céleste et reçut de Dieu lui-même l'assurance que la propitiation offerte pour les péchés des hommes était suffisante et que tous pourraient, par son sang, obtenir la vie éternelle. Le Père confirma l'alliance qu'il avait faite avec le Christ, s'engageant à accueillir les hommes repentants et obéissants et à les aimer comme il aime son propre Fils. » Eh bien, nous avons maintenant quelques jours avant la fin de cette année, mais chaque fin d'année annonce une nouvelle année. Telle une rose,